À la question que vous venez d'entendre vont répondre ce matin et les samedis 16, 23 et 30 juin, Mme Hélène Carrère-Dancausse, professeure à l'Institut d'études politiques de Paris et auteure du livre « L'Empire éclaté » publié aux éditions Flammarion, Messieurs Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique à l'Université de Paris 3 et auteur des livres « L'Islam hier et demain » aux éditions Buchet-Châtel et « Essai sur la pensée islamique » aux éditions Maisonneuve, Abdelkader Chanderli, conseiller principal au Fonds arabe de développement économique et social et membre du Club de Dakar, Olivier Carré, chargé de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, auteur du livre « La légitimation islamique des socialismes arabes » aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Jean-Marie Domnac, écrivain et auteur du livre « Ce que je crois » publié aux éditions Grasset, Jean-Louis Reverrier, journaliste au journal L'Unité et co-auteur du livre « L'Iran contre le chat » publié aux éditions Simone, et Maxime Rodinson, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et auteur des livres « Marxisme et monde musulman » et « Mahomet » aux éditions du Seuil et « Les Arabes » aux presses universitaires de France. Ce matin, ce sont les interventions de M. Abdelkader Chanderli, Jean-Louis Reverrier, Mohamed Harkoun et Olivier Carré qui occuperont le temps de cette émission. La question que nous nous posons aurait profondément étonné les hommes d'État et les diplomates occidentaux avant la Deuxième Guerre mondiale et même pendant les deux décennies qui l'ont suivi. En effet, le monde occidental venait de se partager la planète et à la guerre chaude succédait sans solution de continuité la guerre froide, la course aux nouveaux armements, les affrontements idéologiques sans oublier le mûrissement du grand projet de voyage dans la Lune. Les trois ou les quatre grands, c'était une formule de politesse à l'usage de ceux qui étaient plus vieux que grands, en fait deux empires, se partageaient le monde, mais pour l'un et l'autre, l'ethnocentrisme allait de soi et il ne s'agissait en fait que de stratégie et d'une partie d'échecs planétaires dont les matières premières étaient l'enjeu. Quant à la décolonisation, elle se réduisait à la modernisation de la colonisation et à une redistribution des cartes entre partenaires occidentaux. Quant à l'islam, dont nous allons nous entretenir ce matin, quelle existence même aurait-il pu avoir s'il n'avait pas été domicilié sur une éponge à pétrole? Encore fallait-il que les autochtones ne se fissent pas trop d'illusions sur le droit du premier occupant. Et voilà que depuis 1974, le monde industrialisé est sous la menace de l'arme du pétrole que les puissances pétrolières du Moyen-Orient ont retournée contre lui. N'oublions pas le propos d'une stupéfiante inconséquence tenue par le docteur Kissinger à Saint-Moritz en février 1975, à l'issue de sa rencontre avec le Shah d'Iran. Le prix élevé du pétrole, disait-il, permet de financer les commandes civiles et militaires de l'Iran, précieuses pour l'économie américaine. Cette richesse renforce un bastion de l'Occident dans une zone stratégique troublée. La suite de cette ahurissante politique, ce fut l'explosion iranienne et les conséquences qu'en tira Yasser Arafat. Son télégramme à Khomeini en février dernier, il s'agit de la victoire du peuple dans cette région du monde. La nation islamique triomphera de ses ennemis. Et quelques jours plus tard, Arafat arrivant à Téhéran déclarait « La nation islamique est en marche et plus rien ne l'arrêtera ». Voilà le sujet de ce débat. Abdelkader Chanderli, c'est vous-même qui me l'avez suggéré à la suite du débat auquel vous avez participé ici même avec les membres du Club de Dakar. Alors, pour vous, cette résurgence, réveil de l'islam, quels sont-ils?
Lorsque M. Arafat ou quelqu'un d'autre parle de nation islamique, je crois qu'il y a là une terminologie qui est ambiguë. On peut parler de communauté islamique, de même que dans les pays occidentaux et en France en particulier, on a tendance à assimiler un peu trop facilement la notion de groupe, de communauté ou de nation arabo-musulmane, alors qu'en réalité, les Arabes représentent environ 5% de la communauté musulmane, communauté qui groupe entre 550 et 600 millions d'hommes. Cette communauté musulmane se situe depuis les Philippines jusqu'à l'Atlantique. Et cette communauté musulmane est un phénomène de société, représente une globalité qui dépasse de très loin les conflits locaux, localisés, les conflits du moment, qui sont ceux qui nous préoccupent et qui nous intéressent, notamment dans la région du Moyen-Orient. L'islam, à l'origine, est une contestation. L'islam est une religion révélée qui a succédé aux deux religions monothéistes qui l'ont précédée, à savoir le judaïsme et le christianisme. L'islam a contesté, dans une certaine mesure, les religions révélées avant lui, tout en les absorbant, tout en disant « moi, j'amène la vraie parole, je corrige la trahison d'éclair ». Et en même temps, c'était une contestation de la société idolâtre qui prévalait à l'époque dans les déserts d'Arabie. À ce titre, on peut dire que la contestation fait partie intégrante de l'islam en tant que dogme, en tant que mouvement politico-religieux, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam est avant tout un système de société aussi bien qu'une liturgie et qu'une religion. Et en partant de ces données-là, on peut parler de contestation, mais est-ce que cette contestation est dirigée contre l'Occident occidentalisé, l'Occident industrialisé? Je n'en suis pas très sûr. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas là un peu d'amalgame et dans quelle mesure l'islam qui conteste, effectivement, notamment en Iran aujourd'hui, et ça c'est un phénomène politique à mon avis momentané, l'islam qui conteste effectivement un certain nombre d'éléments qui sont représentatifs de la société occidentale telle que nous la connaissons, est-ce que cet islam conteste cette société ou bien conteste-t-il la façon de vivre dont cette société a entouré l'humanité d'aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas plutôt la recherche d'un mysticisme qui a disparu chez les hommes? Est-ce que ce n'est pas plutôt ce besoin chez un certain nombre de groupements, de communautés humaines, la recherche d'une mystique, d'une croyance, d'une foi? Est-ce que ce n'est pas justement cette absence de foi, cette foi perdue dans l'Occident moderne, que l'islam essaye de retrouver et d'imposer dans la mesure où il peut l'imposer par sa foi et par ce qu'il est convenu d'appeler, sinon ses victoires, tout au moins ses progrès, car progrès il y a. L'islam est sans doute dans le monde moderne la seule religion qui fasse des progrès, qui fasse des prosélytes, qui arrive à convaincre les gens de l'adopter, de l'accepter. Ce phénomène d'élargissement de l'islam se manifeste notamment en Afrique noire et en Asie du Sud-Est, où il est extrêmement frappant. On sait peu, évidemment, que, par exemple, en Inde, il y a beaucoup plus de musulmans qu'au Pakistan, qui est censé être un État islamique. Un exemple tout à fait particulier. Si bien que, à la recherche de cette explication de l'attitude nouvelle de cet éveil musulman, éveil, non pas que l'islam dormait, mais c'est parce que nous le découvrons, ou que vous le découvrez, qu'on peut parler d'éveil. En réalité, il a toujours été là. Ça fait partie de ces choses qu'on découvre tout à coup, parce qu'il y a un phénomène politique sérieux qui a attiré l'attention et qui automatiquement entraîné les masses médias à s'en préoccuper. Voilà un peu, Monsieur Yanovsky, les idées générales que je voulais mettre en avant à l'ouverture de ce débat, en me réservant d'y revenir et en indiquant surtout que je suis ici heureux d'être votre invité, mais surtout que je ne suis pas un islamologue, que je ne vois ce problème que sous son aspect politique et que ma contribution ne pourra en aucune manière refléter des idées de professionnels et de savants telles que celles que certains de nos collègues ce soir ici vont pouvoir présenter. J'aimerais, avec votre permission, dire simplement un mot. Je regrette infiniment que M. Jacques Berck, que le professeur Berck ne soit pas parmi nous. Sa participation à ce genre de débat aurait été extrêmement importante et je suis très, très navré qu'il ne soit pas des nôtres.
Merci, M. Chandali. Je pense que nous allons revenir sur un certain nombre de propos que vous venez de tenir et je donne tout de suite la parole à Jean-Louis Reverrier qui, lui, je crois, est parmi nous le témoin le plus récent des événements d'Iran. Alors, très rapidement, quelques mots sur ces événements d'Iran avant que nous abordions au fond le problème de l'islam.
Oui, de toute façon, je ne suis pas non plus un islamologue, mais je trouve que dans les propos qui viennent d'être tenus, il y a une bonne direction et une insuffisance. Dire on parle d'éveil de l'islam, mais l'islam ne dormait pas, sans aucun doute. Mais alors pourquoi là et pourquoi aujourd'hui? Je crois que c'est la question à laquelle il serait intéressant d'essayer de répondre, étant entendu qu'on ne pourra que concerner un certain nombre d'éléments. Dans notre livre « Iran contre le Shah », nous avons cherché à dénoncer un des aspects sur lesquels la propagande internationale du Shah d'Iran avait le plus porté. Le Shah n'avait pas pu continuer à mystifier l'opinion sur la réalité des tortures et du despotisme dans son pays. Par contre, il avait assez bien réussi à faire passer l'idée de ce qu'il s'efforçait de tirer son pays des ténèbres du Moyen-Âge pour le moderniser. Et ça, c'est non seulement faux, mais en plus c'est tellement faux que ça a très certainement joué un rôle important dans ce qui s'est produit en Iran. Alors, il ne s'agit pas de plaquer un schéma d'analyse qu'on pourrait utiliser en, en Occident sur la réalité économique iranienne, mais il est certain que, et j'en parlais encore justement en Iran il n'y a pas très longtemps avec un économiste qui s'appelle Nasser Pakdaman, il est certain que les contradictions du système économique complètement fou et sauvage que le Shah avait incité à se développer ont joué un grand rôle qu'on a complètement négligé ici. On avait assisté en Iran depuis un certain temps à des soulèvements populaires dans les bidonvilles vers lesquels avaient été chassés des centaines de milliers de paysans en raison d'une réforme agraire sur laquelle je souhaiterais pouvoir revenir plus tard. Et il y avait un mécontentement lié à l'aggravation des inégalités, lié à une machine économique qui patinait complètement, lié également au fait que le régime lui-même l'admettait, ses ressources pétrolières dont on a tant parlé étaient plus ou moins condamnées à moyen terme. Enfin, on pense que les ressources en pétrole d'Iran, au rythme d'extraction qu'elle connaissait, étaient condamnées au bout d'une trentaine d'années. Et une nécessité d'augmenter les importations à un rythme tel qu'il était clair que l'Iran deviendrait un pays mendiant sous peu. Alors ça, évidemment, le peuple n'en faisait pas l'analyse, mais il en subissait déjà de manière plus ou moins anticipée les effets, et il est certain que ça a joué un grand rôle dans la levée du mécontentement populaire. Cela étant, ce mécontentement a été animé, impulsé, insufflé par les religieux, par l'islam, qui a montré effectivement toute sa capacité d'adaptation à une situation révolutionnaire qui maintenant est en plein développement. Alors, on y reviendra probablement tout à l'heure parce que il y a des aspects très, très contradictoires, très complexes à déchiffrer dans cette réalité. Mais il est certain que les partis politiques qui avaient été effectivement décimés, mais les religieux l'avaient été également, les partis politiques n'ont pas su jouer le rôle que le chiisme a joué en Iran.
Mais alors, est-ce que l'islam a été une des composantes du soulèvement iranien, ou est-ce que ça a été simplement un point d'appui pour le soulèvement?
Ça a été les deux à la fois. Je veux dire que ça a été d'abord un point d'appui, mais un point d'appui qui n'a pu servir de levier que parce que les mollahs, les ayatollahs, ont su exprimer bien mieux que quiconque l'attente de ce peuple, son sentiment, et dans un langage qui était le seul à même d'être compris dans les villages. Quand les politiciens, enfin, ou les militants politiques allaient dans un village, soit les libéraux pour parler des droits de l'homme, du progrès, soit les marxistes pour parler de dictature du prolétariat, je veux dire que ils auraient parlé chinois, c'était la même chose pour les paysans. Alors qu'au contraire, les mollahs, en puisant leurs explications sur la base de l'histoire religieuse, en se référant à Hossein, à tout ce passé très riche, qui exprime directement le quotidien des paysans, les religieux ont su trouver ce langage et puiser dans le passé, dans la richesse de la religion, les armes qui ont permis ce soulèvement populaire.
Donc c'est un soulèvement de culture venant appuyer un soulèvement politique.
Oui, c'est cela, oui.
Monsieur Harkoun, cette résurgence de l'islam, sur quoi est-elle fondée réellement? Quelles sont les bases de cette revendication religieuse, mystique, spirituelle et finalement politique?
Oui, avant de répondre directement à la question telle que vous la formulez, j'aimerais souligner un fait important à mes yeux. C'est que tout ce qui se dit au sujet des événements que nous vivons se dit sous le titre général d'islam. Le titre même retenu pour cette rencontre met l'islam en vedette, cinquième grand ou contestation radicale de l'Occident, etc. Personnellement, je n'adopterai pas du tout cette position-là parce qu'il y a un certain nombre de musulmans qui sont évidemment sociologiquement minoritaires et culturellement minoritaires, qui essayent de faire, parce qu'ils ont conscience de l'importance de cela, qui essayent de dégager l'islam en tant que religion de tout ce qui se passe à l'intérieur des sociétés. Et ils essayent de restituer aux sociétés leur dimension réelle, leurs paroles telles qu'elles la tiennent, en empêchant ce travestissement continu qui se fait des phénomènes réels, des enjeux réels qui se passent dans les sociétés et que l'on présente régulièrement sous le grand titre de religion, sous le grand titre d'islam. Il y a là quelque chose qui, à mon avis, fait un tort considérable encore une fois, à une minorité de musulmans qui tentent de faire ce qui a été fait en Occident pour le christianisme, à savoir de faire cette séparation qui a fait un certain nombre de progrès dans les sociétés occidentales, mais qui, dans les sociétés où domine l'islam, commence à peine à se faire, cette séparation du religieux et de tout le reste des activités des hommes dans la société. Ceci est important. Maintenant, les bases de ce qui se passe ne sont pas exclusivement, justement, des bases religieuses. Elles sont, lorsque nous regardons les choses de près, je dirais personnellement, d'abord des bases démographiques. Ce qui est extrêmement important. Et vous voyez que dès que je prononce le terme démographique, il y a tout cet immense langage, qui n'est qu'un langage référé à l'islam, prend une importance extrêmement relative. Songez que depuis 1950, dans tous les pays où prédomine l'islam, la population a doublé. Et ce doublement de la population provoque tous les problèmes que nous connaissons, qui sont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques. Et ce doublement de la population intervient dans un environnement mondial sur lequel je n'ai pas besoin de m'étendre. Et il y a, bien évidemment, ce que l'on peut appeler l'idéologie de combat qui s'est développée depuis le 19e siècle face au phénomène colonial. Et c'est sur cette lancée du phénomène colonial et de l'idéologie de combat de la part des sociétés musulmanes que se poursuivent un certain nombre d'événements dont nous vivons des manifestations un peu partout, et pas seulement, bien évidemment, en Iran. Parce que si nous pensons, par exemple, à la guerre d'Algérie, c'est une manifestation également spectaculaire de ce phénomène qui, pour moi, est un phénomène historique, social, dans l'environnement mondial tel qu'il est et qui n'est pas exclusivement islamique. Quel rôle joue l'islam, cependant, dans tout cela ? Il est évident que dans toutes ces sociétés, il y a besoin d'exprimer et de légitimer, comme dans toute société, les mouvements de revendication qui se font. Eh bien, ce discours de légitimation ne peut être puisé que dans les schémas culturels installés, mis en place par une vieille tradition culturelle que l'on peut qualifier, grosso modo, là encore, d'islamique. Car lorsqu'on analyse, on n'y trouve pas que cet islam, on trouve tout autre chose. Si nous faisons une analyse culturelle, n'est-ce pas, une sociologie culturelle affinée d'un pays comme l'Iran, ou d'un pays comme le Maghreb, ou comme la Turquie, ou comme le Pakistan, nous y trouvons des éléments qui ne sont pas des éléments islamiques, en grande partie, et même en majorité. Alors vous voyez que dès que nous essayons d'approcher n'importe quel aspect du problème, ce phénomène islam recule devant nous. Et il recule plus que jamais, précisément, dans la phase où nous vivons. On dit dans le titre du débat « Contestation radicale de l'Occident industrialisé ». Personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec cette formulation. Parce que il n'y a ni contestation, ni surtout une contestation radicale. Pour la bonne raison que si des éléments de culture, d'origine islamique et autres, servent à formuler les revendications actuelles dans les sociétés dont nous parlons. Si cela existe incontestablement, il faut bien dire, et cela serait à soi tout seul un très long débat, qu'il y a dans les sociétés dites musulmanes, vous voyez jusque je vais, je veux absolument mettre de côté tous ces qualificatifs, dans ces sociétés-là, historiquement, il y a eu une double rupture dont on ne parle guère, même les spécialistes n'en parlent guère. Il y a une rupture de ces sociétés vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur propre tradition culturelle, précisément, si l'on veut se référer à la tradition, cette fois-ci, islamique religieuse. En gros, à partir du XIe siècle, il y a, pour des raisons que je ne vais pas avoir le temps, bien sûr, de détailler, mais que d'autres collègues pourraient faire, il y a un processus historique qui entraîne une rupture dans ces sociétés vis-à-vis de la période créatrice, sur le plan culturel et sur le plan religieux, de ce que l'on peut appeler la culture musulmane et la religion musulmane. Et ceci, je répète, depuis le XIe siècle, jusqu'à maintenant, sans interruption. Et le phénomène industriel et l'intervention sous la forme coloniale du XIXe siècle et sous la forme technologique actuelle des sociétés occidentales ne font qu'aggraver cette rupture. Et cette rupture, précisément, vis-à-vis de ce que j'appellerais le noyau religieux de l'islam, sur lequel non plus je n'aurai pas le temps de m'étendre. La deuxième rupture, qui est extrêmement importante, c'est la rupture vis-à-vis du processus historique qui a mené l'Occident à partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours à être ce qu'il est, à vivre ce qu'il vit, les crises qu'il vit. Et par conséquent, ces sociétés ne connaissent pas les enjeux véritables de ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Comment veut-on parler de contestation radicale, de phénomènes que l'on ignore d'un côté pour l'Occident, et avec un matériel intellectuel et un matériel culturel qui nous appartient à nous-mêmes, mais qui nous échappe du fait de l'histoire? Alors, contestation radicale, je le regrette d'ailleurs, il n'y en a pas. Et c'est pour donner une possibilité à cette contestation, car elle doit avoir lieu, mais elle doit avoir lieu sur un terrain culturel entièrement modifié, et du côté occidental et du côté islamique. Mais ceci ouvre un très long chapitre, je crois que je ne vais pas avoir le temps de le développer tout de suite, je le ferai si l'occasion m'en est présentée.
Merci Mohamed Harkoun. Et maintenant, Olivier Carré, à vous la parole, si vous le voulez bien.
Je vais essayer d'indiquer quelques idées fortes courantes, que j'estime courantes, au Moyen-Orient arabo-musulman, qui sont en fait, je crois, de vieilles idées, quelque peu mises aux couleurs du jour par un certain nombre de penseurs musulmans, que j'appelle islamistes, c'est-à-dire qui ont pour but d'instaurer dans les sociétés musulmanes modernes ce qu'ils appellent volontiers un ordre islamique, politique et social. Il est possible que ceux qui expriment ces idées-là expriment aussi une revendication populaire assez largement répandue et qui a été jusqu'à présent plutôt réprimée par les pouvoirs laïcisants, nationalistes, et en général autocratiques successifs aux indépendances. L'une de ces idées forces, c'est l'arabisme. C'est l'idée que tous les Arabes, depuis la mer d'Oman jusqu'aux côtes marocaines de l'Atlantique, forment de tout temps une même et unique réalité culturelle et donc nationale. Il y a évidemment une certaine opposition entre arabisme et islamisme, mais en définitive, l'arabisme est volontiers perçu comme la pierre angulaire d'une renaissance islamique, et cependant que, de l'autre côté, les réformistes musulmans voient volontiers dans la langue et la culture arabe le noyau de la foi et de la culture musulmane, puisque la parole même de Dieu manifestée à l'humanité, le Coran, est arabe et en langue arabe. Ces dernières années, d'ailleurs, montrent nettement cette alliance entre les solidarités, d'une part islamique et d'autre part arabe, dans les faits politiques comme dans les théorisations, puisque lors de, par exemple, la victoire de la révolution islamique en Iran, il était frappant que Yasser Arafat, qui est en principe le leader de l'avant-garde du nationalisme arabe, que la résistance palestinienne tienne à peu près le même langage que les frères musulmans d'Égypte en saluant le réveil de la nation musulmane. Arabisme donc islamisme, ou islamisme donc arabisme, voilà, je crois, l'une des inspirations majeures de toutes les affirmations nationales actuelles en Orient arabo-musulman. À la base de cette inspiration se trouve en permanence le mythe fondateur qu'est l'origine de la communauté musulmane de Médine autour de Mohammed et de ses premiers disciples. C'est là, dit-on volontiers, l'époque de la démocratie directe parfaite, de la justice sociale excellente, de l'ordre moral idéal, le tout entouré d'une ferveur collective, d'une foi neuve et vive en un Dieu qui parlait au jour le jour directement par la bouche de son prophète. Ce recours à l'origine est vivifiant comme tout recours à un âge d'or, mais il est aussi problématique, d'un point de vue extérieur en tout cas, qui est le nôtre ce soir. En effet, il découle de ce recours à l'origine exemplaire une doctrine politique qu'on peut en deux mots décrire comme l'allégeance populaire à un chef autocratique éclairé par la loi islamique, la charia, et aidé, plutôt que contrôlé, par un conseil censé exprimer les vrais intérêts de son peuple. Parlementarisme et pluripartisme ne sont pas considérés comme relevant de la politique islamique. Le chef et ses conseillers sont chargés, par ailleurs, de restaurer l'application de la charia, la loi islamique, telle qu'elle a été édictée ou inspirée en Arabie au 7e siècle, puis élaborée à profusion dans les siècles suivants, notamment en matière pénale et matrimoniale. Ces idéaux politiques et judiciaires s'inscrivent en fait de plus en plus dans les faits dans plusieurs républiques ou royaumes islamiques, depuis le Pakistan jusqu'à la Libye, en passant par l'Iran et l'Arabie Saoudite, voire même peut-être demain ou après-demain l'Égypte. La devise des courants islamistes les plus extrémistes, c'est « pas d'autre parti que le parti de Dieu, pas d'autre constitution que le Coran, pas d'autre loi que la charia ». Ce que j'aimerais de cette renaissance islamique qui soit autrement fondée que sur les réserves financières des États pétroliers, c'est, je pense, ce que voulait dire Harkoun tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de redéfinir l'expérience prophétique collective musulmane des origines avec la liberté même que permet un contact, pour ainsi dire, transhistorique avec l'expérience même de Mohammed à la Mecque et à Médine. Au nom de l'islam vivant, il faut envisager cela, et c'est ce à quoi aspirent quelques penseurs musulmans aujourd'hui, fort isolés, il est vrai. Il aurait alors sans doute cette chose qu'on pourrait vraiment appeler une renaissance de l'islam économique, politique, mais aussi sociale, intellectuelle, religieuse, inséparablement. Car, à mon avis, l'islam est un être vivant, et comme tout être vivant, il a ses caractéristiques personnelles, sa manière propre d'évoluer au sein de l'humanité, une manière d'organiser la vie individuelle, d'organiser les rapports sociaux, d'organiser l'activité économique, une manière de penser et de raisonner, une manière de croire en Dieu, de l'adorer et de lui obéir. Voilà quelques traits de cette personnalité islamique que, personnellement, en tant que non-musulman, mais en tant qu'humaniste, j'aimerais voir en effet renaître, renaissance d'un islam vivant et non pas prolongation d'une espèce de scolastique concordiste.
Nous devons interrompre ici la retransmission de la première partie de cette émission. Vous avez entendu ce matin les premières interventions de messieurs Abdelkader Chanderly, Jean-Louis Verrier, Mohamed Harkoun et Olivier Carré. Samedi prochain, vous pourrez entendre les interventions d'Hélène Carrère-Dancos, de Jean-Marie Domenac et de Maxime Rodinson, et ensuite la discussion qui a suivi ses premiers exposés. Par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui désirent participer à l'enregistrement public de cette émission, c'est mardi prochain, 12 juin à 21h, à la Maison de Radio France et au Studio 105, 48 heures après les élections européennes, et à l'occasion de la publication aux éditions Economica de l'enquête du journal Le Monde, 20 ans de réussite allemande, que nous poserons la question « L'Europe au risque de l'Allemagne ?» à l'équipe de rédaction du Monde, c'est-à-dire à Mme Joanine Roy, chroniqueur au service social, M. Jean-Pierre Dumont, chef du service social, Jacques Graal, chroniqueur au service agriculture, Gilbert Mathieu, chef du service économique et François Renard, chef de la rubrique Bourse, ainsi qu'à M. Joseph Rovan, professeur à l'Université de Paris 8 Vincennes et auteur du livre « Histoire de la social-démocratie allemande » publié aux éditions du Seuil, et Jean-Pierre Vigier, maître de recherche au CNRS, secrétaire du comité d'action contre l'hégémonie germano-américaine en Europe. Si vous désirez participer à ce débat, vous pouvez vous renseigner sur les possibilités d'accueil du Studio 105 en téléphonant dès lundi au numéro de téléphone de l'émission 224 36 72 à samedi prochain. À la question que vous venez d'entendre, je le rappelle à ceux qui suivent de samedi en samedi la retransmission par épisode de nos débats enregistrés à la Maison de Radio France, répondent Mme Hélène Carrère-Dancos, professeure à l'Institut d'études politiques de Paris et auteure du livre « L'Empire éclaté » publié aux éditions Flammarion, M. Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique à l'Université de Paris 3 et auteur des livres « L'Islam, hier et demain » aux éditions Boucher-Châtel et « Essai sur la pensée islamique » publié aux éditions Maisonneuve, Abdelkader Chanderly, conseiller principal au Fonds arabe de développement économique et social et membre du Club de Dakar, Olivier Carré, chargé de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques et auteur du livre « La légitimation islamique des socialismes arabes » publié aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Jean-Marie Domnac, écrivain et auteur du livre « Ce que je crois » publié aux éditions Grasset, Jean-Laure Verrier, journaliste à l'Unité et co-auteur du livre « L'Iran contre le chat » publié aux éditions Simone, et Maxime Rodinson, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, auteur des livres « Marxisme et monde musulman » et « Mahomet aux éditions du Seuil » et « Les Arabes » aux presses universitaires de France. Samedi dernier, nous avons retransmis les premières interventions de M. Chanderly, Reverrier, Harkoun et Olivier Carré. Voici ce matin celle d'Hélène Cahernancos, de Jean-Marie Domnac et de Maxime Rodinson. Dans sa première intervention, Mohamed Harkoun avait insisté sur deux éléments qui lui paraissent fondamentaux pour l'explication du phénomène de résurgence de l'islam qui nous a conduit à proposer cette émission à votre attention. D'une part, les communautés islamiques admettent désormais la séparation entre la référence religieuse et la relation de société. D'autre part, le phénomène musulman est aussi un phénomène démographique. Depuis 1950, disait Harkoun, dans tous les pays où domine l'islam, la population a doublé et ce doublement de population est intervenu dans un contexte politique, économique, social et aussi de crise idéologique de la société occidentale. Autant de faits sur lesquels il est inutile d'insister. Donc, Hélène Cahernancos, l'émergence d'un islam agit par une volonté de puissance et par une dynamique de contestation. Ce serait aussi une des raisons de ces menaces d'éclatement de l'Empire soviétique que vous avez analysé dans votre dernier livre et que vous aviez décrit ici même dans un récent débat sur les dangers qui pèsent sur l'Europe occidentale. Alors, êtes-vous d'accord avec Mohamed Harkoun et son analyse est-elle applicable à l'islam soviétique ?
Je le suis pleinement et je crois que les problèmes de l'islam soviétique sont précisément des problèmes liés à ces deux ordres de facteurs. Quand on parle de société musulmane de l'Union soviétique, d'abord, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est assez révolutionnaire, car il s'agit d'un monde musulman qui a été oublié, arraché à la totalité du monde musulman pendant des dizaines d'années et qui tout d'un coup ressurgit et qui affirme son appartenance au monde de l'islam. Cet islam a été oublié parce que précisément, il était inséré dans un monde qui, à la suite de la Révolution, a séparé le religieux de tout ce qui était la vie des sociétés et a affirmé que, éventuellement, le religieux pouvait subsister. À certaines époques, il ne devait même pas. Mais qu'en tout cas, il n'était pas question qu'il imprègne la vie des sociétés, qu'il transmette ses valeurs aux sociétés, qu'il imprègne le comportement des individus et des groupes et leur vision politique et historique. Donc cette séparation-là, elle a eu lieu et la religion, le religieux a été confiné à un domaine extraordinairement réduit quand il n'a pas été supprimé. Tout d'un coup, ce monde musulman a ressurgi d'abord sous une forme démographique et en manifestant un comportement totalement différent du comportement de la société globale à laquelle il appartient, un comportement qui se rapproche des autres sociétés islamiques, qui fait que là aussi, la population musulmane a pratiquement doublé en l'espace de 25 ans ou de 30 ans, et un comportement qui se référait à des valeurs sociales, à des valeurs morales traditionnelles, qui n'étaient probablement pas proprement islamiques, qui appartenaient à toute une culture régionale, mais qui étaient en rupture complète avec les valeurs sociales, avec l'idéologie de la société globale. Et je dirais que la réapparition de l'islam sous la forme d'une idéologie implicite dans la société s'est dressée en idéologie de compétition avec l'idéologie officielle, l'idéologie communiste, qui a affirmé au fond qu'il y avait deux types de comportements, deux mondes, deux sociétés qui vivaient selon leurs normes, selon leurs traditions, et que l'ère géographique de l'islam russe avait un comportement différent. Dans un second stade, cette idéologie implicite a été récupérée, organisée, prise en main par les leaders religieux de la société islamique soviétique qui ont entrepris de refaire en sens inverse le chemin parcouru au lendemain de la Révolution et de réinsérer le religieux dans la vie des sociétés, d'en faire le cœur de la vie des sociétés d'une façon explicitée cette fois, d'expliciter l'idéologie qui cheminait dans la société par des voies extraordinairement difficiles, d'ailleurs à déceler, où il faudrait des analyses plus fines que celles que nous avons le moyen de faire actuellement, et ces autorités religieuses, dans une société qui, je le rappelle, ne permet pas la coexistence de diverses idéologies, qui ne permet pas la coexistence de divers systèmes de valeurs, de divers comportements, et au-delà de divers modes d'expression, l'effort accompli par ces autorités religieuses est très remarquable, car il se situe sur un triple plan. Il se situe d'abord sur le plan du religieux, en essayant de moderniser l'islam. Le mot de modernisation n'est peut-être pas très bon, mais en tout cas de donner à l'islam, tel qu'il existe désormais dans la société soviétique, des formes nouvelles acceptables au pouvoir soviétique parce que les comportements qu'il implique de la part des fidèles ne gênent pas la vie soviétique. Le deuxième aspect, c'est la volonté de souder une communauté musulmane à partir d'une communauté qui était une communauté soviétique, qui se ressente comme appartenant à la même entité, au même monde, d'une manière explicite et non plus par des comportements confus et diffus. Et troisièmement, et c'est ce qui est très grave, de donner à cette communauté le sens d'une communauté politique, acceptable aussi au pouvoir parce qu'elle reconnaît l'idéologie du pouvoir, idéologie qu'elle repousse d'ailleurs à la périphérie de l'idéologie musulmane, mais avec lequel elle s'efforce de trouver une synthèse possible. Alors, ce qu'il y a de, dans cet effort de rénovation religieuse, qui est très impressionnant, car là où les musulmans ne se disaient pas musulmans jadis, toutes les enquêtes montrent que les individus, les enfants dans les écoles, quand on leur pose la question, répondent qu'ils se définissent comme musulmans en première position, deuxièmement comme ouzbek, tadjik ou autre chose en seconde position, et troisièmement, de manière tout à fait annexe, un citoyen soviétique. Lorsqu'on leur demande dans des enquêtes officielles quelle est la plus grande fête soviétique, ils répondent c'est le ramadan. Et ils répondent ça la veille de l'anniversaire de la Révolution, ce qui est tout de même assez extraordinaire, ce qui indique un nouveau système de valeurs qui se superpose au système de valeurs que l'on a enseigné à toute cette société. Alors, ce que je voudrais dire, pour terminer, ou plutôt poser des quelques questions pour terminer, c'est dans quelle mesure s'agit-il d'un réveil de l'islam ou d'un réveil d'une idéologie qui se fonde, effectivement, et je reviens encore à ce que disait Mohamed Harkoun, d'une légitimation, d'une revendication contre cette tentative d'intégration dans l'idéologie soviétique et dans la société soviétique dont les systèmes de valeurs étaient très, très éloignés de l'islam et de la vieille culture de ces régions, dans quelle mesure cette légitimation que le monde musulman soviétique recherche est-il un phénomène religieux appartenant véritablement à l'islam ou est-il un phénomène d'affirmation nationale et culturelle? La frontière est extraordinairement difficile à tracer. Pour ma part, il me semble que c'est avant tout une revendication nationale, nationale au sens large, au sens d'une communauté culturelle globale, se rattachant au passé, puisant ses racines dans tout ce qui le définit, dans l'islam, dans la tradition turque, iranienne, etc., qui efface d'ailleurs les différences entre islam chiite et islam sunnite, qui intègre à la fois l'islam le plus orthodoxe, les confréries, car tout le monde participe à cet effort pour rendre vie à l'islam, et qui fait d'ailleurs que derrière cet effort politique et social de rénovation musulmane, le religieux chemine aussi et tente à s'affirmer de plus en plus nettement au fur et à mesure que passe le temps.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre cette résurgence de la référence à l'islam et la référence au christianisme qui se développe aussi de l'autre côté, disons l'effet Solzhenitsyn en quelque sorte?
Incontestablement, il y a un élément de comparaison, c'est que je crois que toutes les religions ou toutes les idéologies à support religieux apparaissent comme des idéologies de compétition auxquelles peuvent se rattacher des individus et des groupes pour qui l'idéologie officielle n'est pas satisfaisante, d'autant plus que dans le système mono-organisationnel et mono-idéologique des sociétés communistes, le seul lieu de rassemblement possible et les seules idéologies de rassemblement possible, ce sont les lieux de rassemblement religieux et les idéologies religieuses. C'est là le seul domaine qui ne soit contrôlé que partiellement, parce que théoriquement il est séparé totalement de l'État, il lui est étranger et marginal, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la volonté de contestation, de protestation de l'ordre établi et de ses valeurs se réfugie dans les valeurs religieuses. Je voudrais juste ajouter une chose pour que l'ampleur du problème de cet islam oublié et ressurgi soit claire. Je voudrais ajouter quelques éléments chiffrés, parce que je crois que c'est tout de même très important. Il s'agit de musulmans qui représentaient 10% de la société de l'Empire avant la Révolution, qui actuellement représentent 20%, avec plus de 50 millions de musulmans, 20% de la société soviétique, et qui, maintenant je crois qu'on peut dire sans avoir peur de faire des projections sur la fin du siècle, car le dernier recensement commence à sortir et il est clair qu'il permet de supporter ces assertions, seront en gros 80 millions à la fin du siècle, c'est-à-dire une part très importante de la communauté islamique mondiale.
Et nous retrouvons le phénomène de doublement dont parlait Mohamed Harkoun à l'instant. Jean-Marie Damnak, vous nous avez écoutés avec beaucoup d'attention, alors à vous maintenant d'intervenir. Vous avez la parole.
Certains de mes amis ont interprété la révolution iranienne un peu comme si ce cardinal Marty avait pris la tête de l'insurrection de mai 68, n'est-ce pas? C'est probablement assez différent et c'est ça qu'il faudrait essayer de comprendre. En tout cas, moi, comme catholique, j'ai eu plus de méfiance parce que je connais mieux les curés et que je me méfie lorsque ils se mettent à la tête des mouvements politiques, et que ce qui pour moi est le pire, je parle ici non seulement avec des catégories rationnelles mais avec des catégories passionnelles, ce qui est le pire, c'est que lorsque la religion se dote des puissances de l'État moderne, des armes de la terreur, et là, alors évidemment, il se produit des catastrophes parce que l'Inquisition d'aujourd'hui dispose de méthodes que n'avait pas l'Inquisition du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, je dis simplement que c'est ce qui pourrait se passer étant donné le décalage entre l'évolution spirituelle, religieuse, culturelle et les évolutions techniques. Et que ce qui me paraît être en balance aujourd'hui en Iran, c'est bien cela, de savoir ce que peut donner aujourd'hui une puissance spirituelle, religieuse, détenant les moyens de la contrainte qui sont ceux des États modernes. Lorsque un peuple se sent aliéné, lorsque ses structures sociales sont rongées par des interventions extérieures, et c'est bien ce qui s'est produit à la suite de la colonisation d'abord, puis à la suite du développement technique, alors la religion intervient, elle est la ressource, elle est le recueil, c'est cela qui permet à une société de se restructurer. Je crois que c'est cette fonction supplétive que la religion a exercée et qu'elle peut exercer à nouveau dans les pays d'islam. Et en ce sens, la question posée est quand même mérite d'être prise en considération. Il peut y avoir, à partir de ce retour de la religion, plutôt de ce retour à la religion, une contestation de ce qui ne me plaît pas non plus dans l'Occident, c'est-à-dire de la civilisation productiviste. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on l'a indiqué ici, l'Occident libéral se trouve compromis par la récession économique. L'Occident marxiste, car l'un et l'autre s'était emparé par la force ou par la séduction de grandes portions du territoire des terres de religion musulmane. L'un et l'autre ne sont plus des espérances dans le sens où elles l'étaient il y a encore 20 ans ou 10 ans. Il y a une crise du progrès technique et scientifique, il y a un échec du socialisme marxiste qui fait que ces espérances ne sont plus entraînantes pour les hommes de ces sociétés-là. Par conséquent, n'est-ce pas, l'Occident, qui avait déjà colonisé le monde musulman, qui l'avait ensuite ébranlé par la contagion de ses idéologies, le nationalisme et le marxisme, se trouve déconsidéré et cède la place à ces forces fondamentales qui reviennent. Mais cet ébranlement, qui certainement est consécutif à la déstructuration sociale, comme Harkoun l'indique très bien, et qui est lié à cette recherche de l'identité qui est intervenue partout où s'est établie la société industrielle, cet ébranlement est-il capable de reconstruire vraiment une société dans les conditions qui ont été décrites aussi tout à l'heure, dans les conditions démographiques, dans les conditions de développement technique, ou de sous-développement plutôt, où se trouvent ces sociétés. Ce réveil religieux peut-il aboutir à un bloc politique, à un État, une fédération, peut-il créer une entité politique? Moi, je ne le crois pas du tout, d'abord à cause de l'extraordinaire variété historique, géographique, ethnique des pays musulmans. Ensuite, parce que au sein même du monde arabo-musulman, les différences sont énormes et elles se trouvent aujourd'hui particulièrement évidentes. Je reviens d'un séjour en Égypte, il suffisait de lire les journaux égyptiens, d'entendre parler les Égyptiens pour mesurer la dissonance, le contraste entre eux et le reste du monde arabo-musulman. Or, cette Égypte de 40 millions d'habitants pèse aujourd'hui d'un poids démographique, d'un poids historique et spirituel aussi, qui est aussi lourd, presque aussi lourd, je pense, que le reste de ce monde arabo-musulman. Nous avons donc affaire jusque dans ce qu'on a considéré comme le noyau de l'islam à un ensemble qui est profondément déchiré. Et j'ajouterais que ce réveil, et c'est là où sans doute je vais provoquer quelques contestations à mon tour, que ce réveil ne me paraît guère possible pour des raisons qui tiennent à la situation actuelle de l'islam. Il s'agit quand même d'une religion qui est restée bloquée dans son évolution culturelle au niveau où se trouvait à peu près, je dis culturel. Je ne parle pas des grands mystiques et des grands spirituels, dans son niveau où se trouvait le catholicisme au 16e siècle, n'est-ce pas? Il y a encore quelques mois, on discutait au Parlement algérien de savoir si on autoriserait ou non l'édition d'un théologien arabe du 16e siècle, d'un théologien musulman du 16e siècle. Ça posait une question politique. Oui, au Moyen-Orient, vous le savez d'ailleurs, le nationalisme, ça a été éveillé par les chrétiens. Le Basse est d'origine chrétienne. Qu'est-ce qui manque, en effet, pour que ce réveil religieux débouche dans une construction politique? À mon avis, il manque d'abord, et c'est essentiel, la conception laïque sans laquelle l'État ne peut pas se dégager de la sphère religieuse. Or, nous avons affaire partout à des États religieux, je veux dire à des États où la religion se trouve impliquée dans le lien de citoyenneté. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qui manque encore? Une éducation à la critique, n'est-ce pas, à l'esprit critique, à la réflexion critique. Il manque enfin, et ceci n'est certainement pas lié essentiellement à l'islam, puisque nous le retrouvons dans un grand nombre d'autres pays sous-développés, il manque un certain esprit civique. Je veux dire que les inégalités sont terrifiantes, qu'elles sont souvent acceptées et qu'elles sont aggravées par la corruption, jusque dans les États qui se prétendent socialistes. Alors, cette contestation, que moi je crois nécessaire du productivisme que l'Europe répand, l'Europe, l'Occident, les États-Unis répandent sur le monde, viendra-t-elle de là-bas? Je crains que non. Je vais mentionner le mot de socialisme. Le socialisme arabe qui dirige ou qui a dirigé un grand nombre de pays musulmans est-il substantiellement différent des autres socialismes? C'est une question que je pose. Affronte-t-il, considère-t-il la technique sous un autre œil? Est-il disposé à ralentir l'effort technique, à l'humaniser l'effort technique et l'effort d'industrialisation? Moi, je crains que non. Je crains que les pays arabo-musulmans, les pays musulmans, parce que moi, je pense plutôt aux arabo-musulmans, mais je vois qu'on a étendu immensément le problème, sont, et c'est ceux que je connais, sont pris entre, dans ce dilemme. D'un côté, un progressisme libéral, d'un autre côté, un intégrisme islamique. Alors, ils vont de l'un à l'autre sans trouver la troisième voie. Alors, il y a une force d'explosion incontestable dans l'islam, on l'a dit, je n'y reviens pas, et je serais content d'en savoir même un peu plus, et d'imaginer, je me demande souvent si l'islam sera cet explosif qui fera sauter, qui décomposera le dernier des grands empires coloniaux de l'Europe, je veux dire l'Union soviétique. Ça, là, il peut avoir de l'influence, mais je crains fort qu'il ne reste politiquement impuissant à faire un pouvoir. L'espoir, je le place là où Mohamed Harkoun l'a placé, c'est l'évolution en profondeur de l'islam. C'est que l'islam accepte de se remettre en question, qu'il accepte le dialogue, la contestation, qu'il fasse ce travail que l'Église catholique a commencé bien tardivement, soit ce travail sur lui-même, auquel je crois que des chrétiens peuvent l'aider, auquel il l'aide, auquel il collabore, comme c'était le cas récemment à Fès. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, c'est par ce travail de contestation sur lui-même, c'est en se contestant lui-même qu'il pourra devenir, à mes yeux, une force réellement libératrice.
Après Jean-Marie Domenac, à vous de répondre à la question posée, Maxime Renaisson, avant que nous ne donnions la parole au public.
Nous avons devant nous, non pas l'islam, mais un monde musulman, c'est-à-dire un monde où la religion musulmane est reconnue comme prédominante dans un certain nombre de pays, et le problème actuel, c'est que c'est une fraction du tiers monde qui partage ses aspirations, ses griefs, la mémoire collective des torts que lui a fait subir l'Occident, et ses revendications, de sorte qu'il paraît, aux yeux du tiers-monde et aux yeux des deux autres, représenter le secteur de pointe. Et c'est ce qui actuellement fait cette force de prosélytisme, de pénétration, parce que il est pourvu, on sent, on sait, qu'il est pourvu d'une tradition d'opposition militante, séculaire, à l'Occident, qu'il est auréolé par cette opposition constante, par ses victoires anciennes sur l'Occident, qui paraissent le gage de victoires futures à tous ceux qui ont été heurtés par l'expansion occidentale. En plus, il est pourvu d'une culture propre, qui paraît une alternative possible à la culture européo-américaine, aux impasses qui sont devenues trop évidentes dans le développement récent des sociétés occidentales. Et maintenant, il est vrai que cette culture est liée à une religion de type universaliste, ouverte à tous, ayant le prestige des grandes religions mondiales, avec une histoire prestigieuse, dotée d'un rituel impressionnant, des rites symboliques intégratifs impressionnants d'unité, tels que le pèlerinage, la prière en commun, et aussi ayant, pouvant dégager de son corpus doctrinal d'origine, des préceptes égalitaires. Il y a un idéal de société terrestre équitable, harmonieuse à bâtir, diffère fondamentalement, classe l'islam, en tant que religion, dans une catégorie différente de celle du christianisme. Le christianisme, c'était à l'origine une petite secte, née dans une petite province d'un immense empire, en Palestine, sous l'Empire romain. Et il n'est pas l'idée de Jésus, des apôtres, de leurs premiers successeurs pendant 3 siècles, d'établir une société. Il y avait un État pour ça. Il y avait un État qui faisait vivre les gens. Là, la religion a pensé d'abord, l'Église, la communauté des croyants chrétiens, a pensé d'abord influencer l'État, peut-être, quand elle est devenue assez importante, et puis faire pression sur lui, le dominer, même, mais jamais il s'est identifié à l'État. Alors, pour des raisons historiques précises, l'islam est né dans une société sans État, a dû se constituer au départ, à la fois comme communauté de croyants, comme église, si vous voulez, et comme État. Din wa daula, comme on dit en arabe, religion et État. L'islam et les deux étaient les deux à la fois, à l'origine, pas resté. Mais il en est resté toujours l'idée qu'il y avait un idéal social à bâtir, une société qui devait être juste, harmonieuse, etc., à bâtir, en plus de la poursuite du salut, en plus de la recherche du paradis, de l'effusion mystique et de toutes ces valeurs existentielles. En plus, tout cela existe comme dans le christianisme, comme dans le bouddhisme, mais en plus, il y a là un effort pour bâtir, enfin tout au moins un effort proclamé, un idéal proclamé, pour bâtir une société temporelle, ici et maintenant. Le monde musulman peut-il former un bloc idéologico-politique puissant et nouveau au niveau des grands blocs qui existent déjà, comme il l'a été dans le passé ? Alors je réponds, il n'y a pas de raison que non, en soi, mais à des conditions et à des conditions difficiles. D'abord, recouvrir une puissance économique et militaire qu'il a perdue. Et pour cela, il n'y a pas d'autre voie que l'industrialisation. Et l'industrialisation amène bien des choses et doit peut-être, enfin, je ne sais pas s'il existe d'autres voies d'industrialiser, mais pour le moment, il semble qu'elle amènera les mêmes problèmes qu'elle a amenés ailleurs. En plus, comme on y a fait allusion, conserver une certaine homogénéité qui, pour le moment, n'existe pratiquement pas entre ces éléments de ce monde musulman. Peut-il créer en son sein ce monde musulman, ce monde qui a l'étiquette de musulman, une société modèle d'un type nouveau, échappant aux impasses actuelles de la société occidentale, aussi bien sous le faciès capitaliste que sous le faciès communiste ? Eh bien, en principe, ni plus ni moins que les autres blocs. À l'époque actuelle, pour qu'une société de ce genre soit une société modèle, ça, il semble qu'elle doit requérir, disposer d'un minimum d'affluence, de richesse accessible à tous, et pour ça, encore une fois, on retombe toujours dans l'industrialisation. Et aussi, ça ne peut être qu'en empruntant des recettes de fonctionnement politique, économique et social à l'expérience des sociétés occidentales. Parce que là, je crois, je rejoindrai dans un autre langage ce qu'a dit Domenac, les modes de fonctionnement des sociétés modernes se retrouvent dans des multiples traditions du monde musulman, elles n'ont pas été inconnues, mais à leur phase de développement de l'époque pré-moderne. On trouve tout dans l'islam, dans l'expérience historique de l'islam, la démocratie et l'autocratie, le collectivisme et l'initiative économique privée. Mais ce qu'on ne trouve pas, et ce qu'a développé l'Europe, pour des raisons historiques, pas du tout pour des raisons de supériorité raciale, ni même, je le crois, pour des raisons de supériorité religieuse du christianisme, par exemple, ou du droit romain, mais il n'y a pas eu, pour des raisons historiques, dans le monde musulman, développement des formes de contrôle politique du pouvoir par les assujettis, par exemple, telles que la représentation parlementaire ou autre. Ça n'a pas existé, quoi qu'en disent les apologètes musulmans. Il n'y a pas eu ces groupes de pression institutionnelle qui pèsent sur le fonctionnement économique avec des modes d'organisation comme les syndicats. Il n'y a pas eu développement d'organisation, de planification étatique de l'économie. Or, tout cela est nécessaire, ou bien ça existe et ça a été emprunté à l'Occident, ou bien il faut le faire exister, et là encore, il s'agira d'emprunt à l'Occident. Bon, rien de tout cela n'est impossible en principe. Le monde musulman peut très bien aller dans cette voie. Et la religion musulmane, je ne crois pas qu'en soi, elle y soit un obstacle. Ce qui est un obstacle, et Domenac l'a dit, c'est l'institution religieuse telle qu'elle a été figée depuis pas mal de siècles et qui est un rempart du conservatisme, comme nous le voyons en Iran, tout au moins majoritairement. Alors, la société nouvelle en question, la société modèle, elle peut exister, mais alors, ce serait une société profondément transformée sur la ligne de modèle non-musulman. Ce qui ne l'empêcherait pas du tout de se présenter éventuellement comme spécifiquement musulmane, d'arborer l'étiquette de musulmane. Les obstacles pour cette voie sont très nombreux. Et le monde musulman transformé sera-t-il un modèle pour les autres peuples s'il se réalise? Pourquoi pas? Mais aussi, encore une fois, à des conditions. Si le type de société réalisée est réalisée dans son ensemble est vraiment attractif, est vraiment séductif, si le bloc nouveau se montre respectueux des autres peuples, des autres sociétés, des autres options, et en particulier du tiers-monde non musulman, alors je dirais tout cela n'est pas impossible, mais c'est peut-être beaucoup exigé de l'histoire et beaucoup demandé à une société humaine, quelle qu'elle soit.
Sur cette intervention de Maxime Robinson, nous interrompons à nouveau la retransmission de ce débat. C'est samedi prochain que vous pourrez entendre la discussion générale qui a suivi les premières réponses de Mme Hélène Kaerdankos et de M. Mohamed Harkoun, Abdelkader Chamberly, Olivier Carré, Jean-Marie Domnac, Jean-Loup Reverrier et Maxime Robinson à la question « L'islam, cinquième grand formation ou contestation radicale de l'Occident industrialisé » à samedi prochain.